Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 l'un des plus grands historiens français, professeur au Collège de France. Son histoire mondiale de la France a connu un immense succès auprès du public. Le livre a suscité aussi de très vifs débats. Vos questions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter. Bonjour Patrick Boucheron.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter.
Merci à vous.
Ce matin, on a avec Léa nombreuses questions à vous poser. Le regard de l'histoire sur ce qui se passe en France en ce moment peut se révéler précieux. La question est ouverte, on verra tout à l'heure. Mais avant cela, un mot de ce livre que vous publiez, La Trace et l'Aura, vie posthume au pluriel d'Ambroise de Milan, 4e, 16e siècle. C'est aux éditions du Seuil. Alors j'avoue à mon grand âge ne plus avoir le moindre complexe à dire que je ne savais pas qui était cet homme, je ne savais pas ce que fut sa vie et encore moins ses vies posthumes. Alors faites-nous son portrait en quelques mots, Patrick Boucheron, et dites-nous pourquoi vous êtes intéressé à lui.
Ah bah je me le demande encore moi-même. J'ai passé 15 ans de ma vie avec cet homme qui n'était pas mon genre. Hein. Vraiment, c'est un évêque du 4e siècle. Il est évêque de Milan en 374, c'est un homme au fond qui est intéressant parce qu'il est faillé. Il est lui-même traversé par une grande bascule qui va d'un monde à un autre. C'est ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. C'est un de ceux qui vont inventer le Moyen-Âge. Et moi, vous savez, c'est un peu mon métier que de raconter le Moyen-Âge.
Mais alors, il est traversé par quoi? La faille, c'est quoi?
D'abord, il est chrétien. Et il se pose une question qui est la question de l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien quand on est romain? Parce que d'abord, il était né pour gouverner et il est dans une des plus grandes capitales de l'Empire d'Occident, Milan. Et d'une certaine manière, gouverner devient autre chose à partir du moment où l'Empire devient chrétien. Et s'intéresser à Ambroise de Milan, c'est s'intéresser à nous, évidemment. C'est-à-dire à ses origines théologico-politique, on va dire, du gouvernement des modernes. Mais seulement, moi, je me suis pas intéressé qu'à lui, je me suis intéressé à la manière dont on se souvenait de lui. Et plus que ça, peut-être, dont on agissait en son nom. Je vais vous raconter l'histoire. Moi, je suis un historien du 15e siècle, voilà, du 15e siècle italien. Et au 15e siècle, à Milan, les citoyens ont voulu se passer de prince. Ils ont fait une révolution. Et cette révolution, ils l'ont placée sous la bannière de Saint Ambroise. Alors on se dit, c'est normal, c'était le saint patron de la ville. Mais non, c'est pas normal. D'une certaine manière, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller fouiller derrière les évidences. Il y a une sorte de souvenir têtu et compact qui dit, on va être tous sous la bannière de notre saint patron. Mais en fait, c'est un souvenir qui est disputé. À chacun son saint Ambroise. Et j'ai voulu décrire cette vie posthume. C'est le travail d'un archéologue. Mmh. Vous savez, quand on est petit, on n'a pas envie d'être historien. Mmh. On rêve d'être archéologue, d'aller trouver le trésor.
Et pompier.
On vous écoute sur Ambroise, on vous écoute et c'est toujours passionnant, mais on est très très loin de l'histoire mondiale de la France. Vous aviez envie, avec ce personnage de l'Antiquité tardive, ce personnage italien, de vous placer en terrain neutre, dépassionné, de sortir du roman national?
D'abord, j'ai commencé bien avant. C'était pas pour rire que je disais que je travaillais depuis 15 ans à ce sujet. C'est le tarif aussi quand on est pas seulement commentateur, inspiré, mais je dirais chercheur, appliqué. Donc c'est long et j'ai voulu aussi faire éprouver cette durée. Vous voyez, comme être historien, ça veut dire quoi? Ça veut dire être un spécialiste du changement social, et de cela on va parler, de l'effraction en fait de l'événement, mais aussi des durées. Et des longues durées. La durée de l'enquête et la durée, au fond, de ce que c'est que l'histoire. Et j'ai voulu, avec ce personnage-là, essayer de faire éprouver au lecteur, j'allais dire presque physiquement, ou en tout cas de manière émotionnelle, ce que c'est pour le temps que de durer. Qu'est-ce que ça veut dire 1000 ans? Ce souvenir d'un personnage qui a 1000 ans. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que pour les historiennes et les historiens de traverser le temps, de toucher la consistance de la durée? Et puis pour vous répondre, c'est mon métier. Voilà, c'est mon métier.
Mais vous aviez besoin de calme quand même.
Je pense que
l'histoire mondiale de la France,
ça a secoué. Alors oui, ça a secoué. C'est normal que ça ait secoué parce que on est là aussi pour ça. On produit des savoirs, mais devant la société, et on n'a pas à se dérober face face au débat, à la critique, évidemment. Alors, on pourrait dire, mais c'est une reconstruction, que c'est sur un terrain neutre, vous avez raison Léa, sur un terrain neutre, la même question. C'est-à-dire, au fond, comment on se construit une identité collective, comment on se façonne nos croyances politiques, comment, d'une certaine manière, avec un passé commun, on se bricole une... sérieusement et gravement, des moyens d'espérer, d'agir, de s'encourager. Parce que c'est ça l'histoire, fondamentalement. C'est l'art de se souvenir de ce dont nous sommes capables. Voilà. Et dans ce livre sur Ambroise de Milan, moi, ce qui m'a frappé, c'est que franchement, je le dis comme si j'étais étonné moi-même de l'histoire que je découvrais, comme archéologue, c'est la puissance, c'est la capacité d'inventivité des sociétés politiques, de créativité, face à un vieux passé, un passé qui ne passe pas, face à un souvenir qu'on veut manipuler, mais qui résiste lui-même. C'est l'histoire, au fond, d'un souvenir qui résiste à ces manipulations.
Alors, est-ce que dans 1000 ans, on se souviendra de ce qui s'est passé en France à cet hiver 2018-2019 et des Gilets jaunes ? Avant de solliciter l'historien que vous êtes, dites-nous d'abord quel regard le citoyen a porté sur cette crise qui a traversé la France. Est-ce que vous avez été surpris par l'apparition des Gilets jaunes, la forme qu'elle a prise, la violence qu'il y a eu également, et le vacillement qu'elle a provoqué sur l'exécutif.
C'est tout ce que vous dites, une surprise, un vacillement, l'étonnement face à l'effraction du réel, et je dois le dire aussi, la déception pour... moi, mon travail, encore une fois, c'est celui d'un chercheur, et donc spontanément, je vais moins vous parler de l'événement que, au fond, du pouvoir intellectuel d'en rendre compte, et aussi des abus de pouvoir. Je me suis dit quand même, c'est formidable. On a tous été étonnés. C'est vrai, la vérité est là, et à commencer évidemment par les gouvernants. Mais on a aussi beaucoup entendu à ce micro et à d'autres. Eh bien, des intellectuels ou des commentateurs venir nous avec naïveté ou cynisme nous vendre leur petite cam, soit identitaire, soit insurrectionnelle, comme si le chien aboie et la caravane passe, comme si rien de ce qui est humain nous est étranger, comme si on avait à s'étonner de rien.
Donc vous dites qu'il y a de l'inédit là.
Mais bien sûr, moi je suis désolé, mais pour moi être historien, c'est apprendre à se déprendre de ses propres convictions. C'est, au fond, restaurer sans cesse sa capacité d'étonnement, d'indignation peut-être, aussi d'enthousiasme, oui, pourquoi pas. Mais enfin, la capacité des gens à adhérer à leurs propres convictions, alors que tout vient en fait les ébranler, ne cesse de m'étonner.
Et donc les comparaisons qui ont été faites, il y a beaucoup de comparaisons depuis 3 mois qu'on entend à ce micro et à d'autres, comme vous dites, est-ce qu'on parle de révolte, de révolution, les comparaisons avec la Révolution française, est-ce que c'est une comparable aux jacqueries paysannes, est-ce que c'est comparable à mai 68, tout ça vous fait rire ou il y a du vrai ?
Non, ça me fait pas rire du tout, je prends ça très au sérieux. Je fais cours en ce moment au Collège de France et là encore ça fait effraction et donc j'ai essayé de me poser la question de savoir, évidemment c'est normal que on demande aux historiens, on est là pour ça aussi, pour répondre à une demande de sens, est-ce qu'il y a des précédents ? Et en même temps, si on connaît un précédent, c'était aussi la question que je me pose, est-ce que ça nous aide à agir ? Ça nous éclaire, mais en quoi ça nous aveugle ? Par exemple, bien sûr qu'on va spontanément faire une généalogie française de l'événement. 68 et derrière 68 les révolutions du 19 la révolution et derrière la jacquerie, enfin la jacquerie elle-même, j'ai médiéviste au 14e siècle, c'est pas un événement local qui est sans rapport avec un soulèvement populaire dans toute l'Europe, et à faire une généalogie strictement française, à oublier, parce que c'est ce qu'il y a de commun au fond entre tous ceux qui viennent nous dire qu'ils le savaient déjà.
Après donc à cause.
Et c'est ça. Et au fond, on peut quand les commentaires affluent, il faut se donner, je dirais, une sorte de morale simple qui est comment on va discriminer. Et ben moi je vous propose cette petite recette. Quelqu'un qui dit je vous l'avais bien dit, je l'écoute pas.
Mais vous comparez à qui alors ? Parce que vous nous dites les comparaisons françaises sont restrictives. Alors, ce qui se passe depuis 3 mois, vous le comparez à quoi ?
Ben, je le compare à ce à quoi les acteurs le comparent aussi, c'est-à-dire aux situations européennes. Là, c'est un peu l'opération de l'histoire mondiale de la France. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une histoire généalogique qui va chercher des racines et des origines, et il y a aussi une histoire, je dirais, des contemporanéités, des simultanéités, qui va chercher des avenirs possibles. Donc, bien sûr qu'il faut réfléchir à ce que c'est qu'un mouvement insurrectionnel. Ça nous apprend quelque chose. C'est que l'émeute en elle-même n'est pas émancipatrice. Où on a vu ça ? L'émeute en elle-même va produire des résultats qui sont voilà, qui vont pouvoir ensuite être évalués par l'histoire en fonction des processus politiques qui sont à l'œuvre, à côté. Et donc pour savoir ce qui se passe, aussi, je dis pas vraiment, je dis pas que ce qui se passe est ailleurs que sur les ronds-points. C'est très important ce qui se passe sur les ronds-points. On a entendu des choses, on a effectivement compris qu'on ne voyait pas tout. Et on a d'une certaine manière senti là aussi presque physiquement ce que j'appellerais notre crise de la représentation. Oui, les élites ne se représentent plus le pays dans lequel nous vivons. Mais peut-être que nous, collectivement, ne nous représentons plus non plus ce que c'est que la France dans le monde.
Patrick Boucheron, quel regard portez-vous sur ce grand débat qui se poursuit en France aujourd'hui et semble rencontrer un succès tout de même notable? Est-ce qu'une démocratie qui débat, qui délibère, qui parlemente, je ne sais pas quel est le bon mot à employer, hein, mais est-ce qu'une démocratie qui fait ça, c'est une démocratie vivante et qui au fond va bien?
Bah bien sûr, parce que la démocratie, c'est pas seulement un régime, c'est une tâche. Elle nous incombe, elle nous appartient. Elle est à recommencer, elle est à défendre sans cesse. Et d'une manière générale, comment effectivement ne pas accueillir et être intéressé par voilà cette demande de débat. Là, on est dans l'effraction de la parole, on est dans la brèche. Je vais pas revenir à Saint-Ambroise, mais cette 1447, ça faisait brèche dans l'histoire de Milan. Et j'avais dit brèche, vous voyez, là aussi, je peux effectivement utiliser des comparaisons historiques en rapport avec ce que Castoriadis, le fort Morin, avait dit de mai 68, c'est-à-dire une prise de parole. Et bien, cette prise de parole, il faut lui donner sens. Mais là encore, on va pas dire qu'elle est simplement spontanée et qu'elle va se passer de la médiation de celles et ceux dont le métier est, non pas de commenter, mais de mettre en intelligibilité. Vous vous rendez compte, là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait sur les gilets jaunes? On fait, et je le dis aussi comme éditeur, on l'a fait au Seuil, Joseph Confavreux, à rassembler des commentaires, un ensemble de textes sûrs, mais sur des gens qui ne veulent pas qu'on parle en leur nom. C'est toujours cette question de parler au nom de, au lieu de. Là, il y a, alors là, je parle comme historien professionnel, des archives qui se construisent, hein, les parlées, écrites, les cahiers de doléances, le grand débat, là on en a pour 30 ans.
Patrick Boucheron, vous aviez comparé pendant la campagne électorale Emmanuel Macron à Machiavel. Est-ce que vous gardez cette comparaison?
Ben, c'est-à-dire que j'avais passé un été avec Machiavel ici, sur France Inter, et cet été paraît bien loin, c'était avant les élections présidentielles, et effectivement, cette comparaison était facile, je la regrette pas, hein. Parce que d'une certaine manière, Machiavel est toujours un maître désenchanteur et il nous aide à nous alerter sur en l'occurrence une situation politique qui est que un homme s'enivre toujours de son propre pouvoir et si sa conquête a été facile, alors ça facilite aussi son infortune. Voilà, ça c'est dans Machiavel. Maintenant, je vais pas dire c'est dans Machiavel, donc c'est vrai, donc je vous l'avais bien dit.
Oui, parce que sinon,
ce qui est certain, parce que là je serais,
pas.
Eh oui, je serais en contradiction. Machiavel, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, en fait, à ceux qui gouvernent? Il y a un discours de 1503 où il dit « Sortez de chez vous et considérez ceux qui vous entourent. » Sortez de chez vous. Ça ne veut pas dire simplement une invitation au voyage, mais c'est une invitation, effectivement, à penser contre soi-même, à aller voir comment on nous voit. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui, je trouve. C'est ce que j'appelais la crise de la représentation. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est qu'on ne va pas se laisser piéger par cette obsession monarchique.
Ah, vous y revenez.
Mais oui,
vous y
bien
revenez
sûr.
Tout le temps.
Mais oui.
Et notamment cette phrase qu'Emmanuel Macron avait déclarée dans le magazine Le 1, je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort du roi.
C'est
vous
une
y revenez en
étrange.
Permanence.
Ben oui, bien sûr, parce que au fond, là encore, c'est mon métier en tant que médiéviste, c'est d'aller chercher dans le passé le plus ancien, là, Ambroise de Milan, je dirais ce qui ne passe pas, c'est-à-dire une sorte de reste inassimilable, un rebut. Et ça, c'est un rebut théologico-politique. Mais enfin, pourquoi on parle d'onction électorale ? Même les commentateurs, lorsqu'il s'agit d'élections démocratiques.
Quel problème fondateur d'Emmanuel Macron, selon vous, cette vision monarchique du pouvoir ?
Mais écoutez, pas seulement d'Emmanuel Macron, de ceux qui sont aussi obsédés par leur propre haine à son égard. Regardez, après 30 ans de loi sur la décentralisation, après, au fond aussi, si on parle de scène intellectuelle, une réflexion globale sur le pouvoir qui, en fait, voit ses disséminations. Pour moi, il y a des pouvoirs. Très rapidement, en quelques semaines, qu'est-ce que je dis ? En quelques jours, en quelques heures, le mouvement des Gilets jaunes cible l'État, le cœur de l'État, l'Élysée, Macron démission. C'est quand même sidérant, cette réduction. Et on va pas se laisser piéger par ça, quand même.
On file au standard, Patrick Boucheron. Il y a de nombreuses questions pour vous. Zachary, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour Patrick Boucheron.
Bonjour
Zachary.
On a
entendu beaucoup de comparaisons vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, dans l'histoire, des comparaisons historiques, 1789, 1848, mai 68. Donc est-ce qu'il y en a une qui trouve grâce à vos yeux ? Est-ce que, selon vous, c'est pertinent de comparer l'actualité brûlante sur les plateaux de télé, notamment, à cette histoire ? Mmh. Et en quoi est-ce que, selon vous, le mouvement se singularise, justement, d'un point de vue historique ?
Merci, Zachary, pour cette excellente question que je transmets à Patrick Boucheron.
Eh bien, je la relance d'une certaine manière, Zachary, parce qu'effectivement, moi, je suis pas le censeur des usages de l'histoire. Je vais pas dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Je remarque, d'ailleurs, je constate, je considère que tous ces exemples sont disponibles. Très banalement, je vous répondrai en disant que une des manières, au fond, de agile, parce que c'est ça aussi l'histoire, c'est une gymnastique de l'inquiétude, c'est au moins d'avoir plusieurs comparaisons en tête. La diversité, au fond, des périodes et des méthodes est en soi une valeur. D'ailleurs, c'est une valeur démocratique, la diversité. Mmh. Et au fond, il me semble que ce qu'on appelle le présentisme, c'est-à-dire cette arrogance du présent, cette obsession de vivre, on va dire, le nez dans le guidon, c'est un présentisme à double fond. C'est-à-dire que finalement, elle arrive toujours, le présent nous arrive avec un référent, une comparaison obligée. Là, c'est les années 30. Ben non, il faut diversifier. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'entendre, effectivement, Gérard Noiriel dire « c'est une jacquerie », alors d'autres historiens médiévistes disaient « non, c'est pas ça la jacquerie ». Bon, ben ça fait un peu, je dirais, respirer l'intelligibilité politique.
Quelle est votre position, Patrick Boucheron, sur la disparition ou la fragilisation du consensus autour de la vérité factuelle ? Ben, on a le sentiment que, l'accord sur les faits et ce qui permet à des opinions, des analyses extrêmement différentes de s'exprimer. Mais il faut bien être d'accord sur quelque chose.
Sur quelque chose.
Et on a l'impression que ce présupposé-là de la vie démocratique est en train de vaciller, voire de tomber en poussière.
Oui, et nous sommes, Nicolas Demorand, vous et moi, les journalistes et les historiennes et les historiens, dans une communauté de désarroi, parce que on n'a pas le sentiment d'avoir mal travaillé. C'est vrai. Et au fond, c'est comme la dialectique du cambrioleur et du serrurier, c'est-à-dire que les techniques de fraude vont aussi vite que celles qui les décryptent et qui désintoxiquent, au fond, le mensonge, parce qu'il y a un moment où on peut parler anglais, mais voilà, c'est des mensonges.
Est-ce grave, docteur ?
Ah ben ouais, c'est grave. Ah oui, parce que, d'une certaine manière, ça repose d'abord sur une méconnaissance sociologique de l'exercice de notre métier. Parce que se faire traiter de chien de garde, c'est très sympathique, mais enfin quand même. Je veux dire, ça ne dit rien de la réalité concrète de l'exercice du métier de journaliste, d'historienne, d'historien. Enfin quand même, on est des travailleurs.
Et on fait quoi face à ça ?
Ben, on fait son métier. C'est-à-dire que là, il faut que c'est très bien l'autocritique, hein. Mais il y a un moment où il y a aussi des choses à affirmer. Et pour moi, bien sûr qu'il faut se remettre en question. Évidemment, il faut comprendre qu'on est dans le cœur de cible, hein. que voilà, il y a une détestation profonde de ce pouvoir intellectuel, de cet exorbitant pouvoir qui consiste à dire le vrai, et on en a peut-être abusé, mais en même temps, il y a la vérité du fait, vous dites Nicolas, mais il y a aussi plus que la vérité du fait, il y a la vérité de l'interprétation, toutes les interprétations ne se valent pas, et puis il y a du travail. Et voilà, moi quand j'écris n'importe quel livre, alors que ça soit l'histoire mondiale de la France, ou que ça soit La Trace et Laura, c'est un livre aussi sur le métier d'historien, de défense et illustration du métier d'historien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on fait, mais en mieux. Mais plus sérieusement, mais plus collectivement. Voilà. On n'a rien d'autre à faire que ce qu'on a déjà fait. Ça, c'est l'histoire. Mais en mieux, mais en beaucoup mieux. Et il faut effectivement que voilà qu'on se ressaisisse collectivement.
Grégoire est en ligne.
Oui, allô?
Bonjour Grégoire, bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors, je voulais en fait rebondir sur la surprise de Monsieur Boucheron et la surprise alors, de ce qu'il a appelé tout à l'heure le pouvoir intellectuel. Je pense que ça montre malheureusement encore une fois la déconnexion entre ce dit pouvoir intellectuel et ce qu'on va appeler le peuple. C'est-à-dire que les gens, moi j'en entendais parler autour de moi depuis des années, du fait qu'un jour ça va péter. Alors, ça a pété, on peut faire toutes les analogies avec 68, avec... Mais c'est justement ça, dire c'est une surprise. Mais non, c'est pas une surprise pour tous ces gens qui voient depuis 2008 ce qui se passe.
Vous dites que c'est une surprise de classe, Grégoire, c'est ça?
Voilà, c'est une surprise de classe, ouais, on peut dire ça.
Écoutez, Patrick Boucheron va réagir à cette interpellation. Merci d'avoir formulé.
D'accord, je l'entends, évidemment, il y a une sorte de formation permanente accélérée pour les élites qui découvrent une France qu'ils avaient, c'est vrai, peu considérée. Voilà. Et chacun doit réajuster la notion qu'il se fait du peuple, enfin l'idée qu'il se fait du peuple, par rapport à des réalités qui étaient moins visibles. Mais à partir, il y a un moment où tout devient compliqué, parce que lorsqu'on est expert, je ne le suis pas. De la situation sociale en France, on se rend compte qu'effectivement il y a de la solitude, il y a de la désaffiliation, il y a de la misère dans les zones périurbaines, mais que statistiquement les zones périurbaines sont pas non plus les plus malheureuses en France, qui faut quand même le rappeler aussi parfois, n'est pas le plus malheureux des pays. Donc là encore il y a une crise de la représentation. L'histoire est une ressource, parce que quel sens ça a, ce que je viens de dire? On va pas faire la leçon aux gens, on va pas leur faire des leçons de morale en disant vous êtes pas si malheureux que ça. Non, mais on peut dire au moins la France n'est pas le pays le plus inégalitaire du monde, ça c'est pas vrai. On peut rappeler quand même notre système de santé, notre système d'éducation, non pour s'en exalter mais pour le défendre, parce qu'il est à défendre évidemment. Mais en même temps, pour des raisons qui sont des raisons historiques, la France est rétive à l'inégalité. Et vraiment, spontanément, c'est idiot ce que je dis. Parce qu'il n'y a pas de vérité des peuples. Mais voilà, on a une histoire qui nous rend, ça revient effectivement à cette phrase du 1, c'est-à-dire ce peuple régicide est fondamentalement rétif à l'inégalité. Et dès que, au fond, un discours politique l'oublie, dès que ce n'est pas placé au cœur, au centre, au devant des préoccupations, là, effectivement, il le paye cher. Mais regardez, ça fait 3 mois qu'on n'entend plus le mot chômage. Il est complètement sorti du débat politique. Il était obsessionnel, et à juste titre, effectivement, les programmes politiques partaient de là. Il faut lutter contre le chômage. C'est ça le cœur, quand même, de ce désarroi. Et ni dans le discours du pouvoir, ni d'ailleurs dans ceux qui s'y opposent violemment, on ne l'entend aujourd'hui.
Merci Patrick Boucheron.
C'est moi qui vous remercie.
D'être venu ce matin sur France Inter, c'était passionnant de vous écouter, de dialoguer avec vous. La Trace et Laura, vie posthume d'Ambroise de Milan, est publiée au Seuil dans la collection L'Univers historique. Merci encore.
Bonne journée.
Merci. Bonne journée. Le Carrefour du 7-9 à suivre.